Bonjour à tous, ici Cladol, on se retrouve pour le JDG Winter Event 2014. Et aujourd'hui c'est la dernière journée, et oui, malheureusement, enfin il reste aussi demain, mais aujourd'hui c'est la fin de la dernière grosse journée. Et on se retrouve pour une interview de Studio Chahut, qui a créé Posthuman Noir. Je suis donc accompagné de Gabriel et Gwenaël.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous déjà si vous les entendez bien, hein. Je règle les derniers soucis techniques de dernière minute au cas où. Normalement, vous devrez bien pouvoir les entendre.
Vous nous entendez bien?
Nous parlons.
Voilà, actuellement nous sommes en train de parler.
De type vocal.
De type vocalement exactement, avec notre bouche.
Voilà.
Bon.
Ça s'excite un peu dans le chat avec le délai, tout ça, tout ça.
Très bien!
C'est pas 8 minutes de retard, non. C'est 8 minutes de on avait démarré et on pignolait le truc. Voyons.
Exactement. C'est de la préparation intensive.
On nous dit on entend vachement bien, bah c'est parfait alors. Ça veut
Au
dire que je suis
poil.
un bon technicien son, tout va bien. Alors,
On a des voix particulièrement
ouais,
délicates aussi.
exactement, on nous entend bien par nature.
Alors, je vais switcher de layout pour que les gens commencent à voir le jeu, le logo du jeu et toutes les petites pubs. Voilà, c'est parfait, c'est magique. Vous ne le verrez que dans quelques instants. Donc oui, on est là pour parler de Posthuman War et bien entendu avec les développeurs, on va faire une partie pour que vous voyez un peu ce que ça donne en même temps de l'interview. On aura un peu le temps de discuter évidemment vu que c'est du tour par tour. Alors du coup, Gabriel et Gwenaël, est-ce que vous pouvez vous présenter avant qu'on démarre?
Oui, tout à fait. Alors moi, donc c'est Gabriel. Hein, si vous arrivez à différencier nos voix, c'est bien. Donc moi, je suis à la fois chef de projet et programmeur sur Posthuman Noir. Donc en gros, c'est moi qui ai lancé le projet et qui le dirige plus ou moins, même si on est plutôt une communauté de gens qui s'écoutent et pas trop un système pyramidal. Et je programme. Donc je suis la bête sombre dans la cave qui tape des chiffres sur un écran sombre et qui à la fin fait un jeu. Voilà. Et je suis gentil.
Et moi, bah, du coup, c'est Gwenaël, celui qui a la voix malade. Je suis sur le jeu, je me suis chargé de la direction artistique. Donc, c'est moi qui suis là un peu depuis le début avec Gabriel et qui, à la fois, on a conçu avec trois cerveaux, donc celui qui est pas là, notamment Anthony. À trois cerveaux, l'univers et toute sa partie narrative. Et moi, je me suis chargé de le mettre en image. Et puis, en pratique aussi, d'animer, de dessiner et de diriger les animateurs et décorateurs. Dessin en fait.
D'accord. Et bon, maintenant qu'on sait à peu près qui vous êtes, on va parler du jeu. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup le jeu, son gameplay, son synopsis, comment ça marche?
Tout à fait. Alors, donc je tiens à préciser que ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est ce qu'on appelle le hall. En gros, c'est l'écran d'accueil où on choisit les paramètres de partie. Après, le jeu ne ressemble plus du tout à ça. Donc, Posthuman Noir est un jeu de stratégie en ligne au tour par tour sur navigateur. Donc, ben, jeu de stratégie au tour par tour. Chaque joueur compose une armée avec un certain nombre de points, puis tour à tour déplace ses unités. Le but étant de se foutre sur la gueule et de
S'amuser.
remporter, voilà, et de s'amuser un maximum. C'est un jeu qu'on appelle un jeu de stratégie pur, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de hasard. Les dégâts sont, il n'y a pas de jet de dés pour les calculer, etc. C'est vraiment complètement calculé. L'idée étant que les joueurs peuvent vraiment prévoir leur coup, réfléchir à là je peux me déplacer pile jusque-là, je peux tuer lui, etc. Alors du point de vue du synopsis, c'est toujours hyper chaud à résumer, donc je vais essayer de faire le plus court possible.
Si, on est
Mais
rodé maintenant.
ouais, on
Il
est
y a
un peu
des gens qui se tapent
rodé,
sur la gueule, voilà, c'est.
mais. Ouais, voilà, en gros. Non, alors en presque rapide, ça se passe en 3000 et des poussières. L'humanité a disparu, donc il n'y a plus d'humains, d'où le titre du jeu d'ailleurs. Et ils ont laissé derrière eux, d'un côté, des grandes villes toutes propres et toutes belles qui sont encore entretenues par des robots ménagers, donc qui continuent à faire le ménage même s'il n'y a plus d'humains et qui font à bouffer, etc., même s'il n'y a plus personne. Et de l'autre côté, des grandes décharges toutes dégueulasses qui sont dans laquelle on grandit une nouvelle espèce parasite qui s'appelle les strontes, qui sont des petites créatures un peu dégueulasses qui ressemblent à des crevettes cheloues. Greffe sur des animaux et qui en prennent le contrôle et qui les
Genre de
font muter.
parasite, tout simplement.
Voilà, exactement, exactement. Et donc ces parasites en fait ont une j'essaie de faire rapide mais c'est difficile. Ont une grande dent contre les humains puisqu'avant la destruction des humains bah eux ils étaient dans les décharges, ils parasitaient des rats et donc les humains les trouvaient dégueulasses et leur donnaient la chasse. Donc une fois les humains décédés, ils sont sortis des décharges, ils ont découvert le vaste monde et ils se sont dit eh ben nous on va se venger. là, ils se sont séparés en deux clans. D'un côté, les vracs, qui sont les vengeurs purs et durs. Eux, ils parasitent des animaux et leur but, c'est de massacrer et de raser toutes les villes humaines. Donc, gros animaux mutants bien dégueulasses. De l'autre côté, les anthropistes, qui eux parasitent des singes et qui eux veulent remplacer les humains. Donc eux, ils veulent pas tout dégommer, ils veulent s'habiller, utiliser des casseroles, regarder la télé, etc. Mais tout en étant des macaques, des orang-outans, des paresseux, etc., etc. Et face à ces deux factions, car ces deux factions sont jouables, se dressent les Airpatch, qui sont les robots ménagers précédemment cités, qui sont dans les villes et qui sont organisés pour lutter contre cette invasion, parce que qu'on veuille laisser des poils ou tout casser, ça se fait pas pour eux. Qu'est-ce que c'est que cette bande de sauvages? Donc, les aspirateurs se mettent au combat, les robots cuistots, les robots de ménage et compagnie s'arment et ils se défendent. Donc voilà les trois factions jouables, Airpatch, Vrak et Anthropiste.
Bien fait le tour du jeu, donc je pense déjà. C'est un bon résumé quand même.
Voilà.
Parce que pour rappel, ceux qui se lanceront dans le jeu auront un tutoriel justement qui leur expliquera l'histoire en même temps, qui leur expliquera les façons de jouer avec les trois classes différentes, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Justement pour bien introduire le jeu et l'histoire en même temps.
Merci.
Bravo pour ça déjà.
c'est Gwen qui est à l'origine de la majorité du tuto et notamment de superbe schéma et instructeur chef.
J'ai beaucoup inspiré de Fred Jamy, je dois l'admettre.
Ah, c'est pas sorcier à jamais dans nos cœurs.
Ouais.
Alors du coup, vu qu'on a fait un peu le tour du jeu, en termes de présentation, on va peut-être lancer la partie. Donc
yes.
Je me suis mis prêt.
Eh bien... Banzai.
Alors Ikarina Chan nous dit comment vous avez pu créer un scénario pareil, est-ce que vous avez bu un peu avant?
Non.
Non, mais ça a mis du temps.
Il y a 0% de substance, comme il y a 0% de hasard dans le jeu, il y a 0% de substance hallucinogène pour la création du jeu. On a de base on est trois amis d'enfance assez anciens, donc on avait un maillage mental déjà préinstallé. Mmh. Du coup, non, c'est surtout, on s'est beaucoup amusé, on a pris le temps de voir un peu. Et ouais, c'est surtout un gros brainstorming. Le principal étant de laisser aller le hasard au début et les divergences mentales.
Ok, alors, on va continuer avec les questions pendant que je suis en train de préparer ma petite armée, vous aussi, je pense.
Tout à fait.
D'ailleurs, il faut pas qu'on regarde ton écran, du coup, vu qu'il est visible, papa.
Ouais,
c'est vrai.
On va faire semblant de pas regarder.
Ouais.
Apparemment, dans le chat, il y a Anthony Dutch qui est présent.
Ah oui, normalement, il a dit qu'il nous suivrait de loin et par intermittence au boulot, si j'ai bien compris.
D'accord, apparemment, voilà, il va répondre aussi un peu à vos questions dans le chat pendant qu'on est en train de jouer et répondre à d'autres questions. Donc ça fera une interview assez complète, que ce soit pour les viewers ou pour le replay.
Alors je sais pas si lui-même s'est présenté, mais du coup Anthony Dutch c'est le troisième du trio du début, et qui c'est un peu le seul à avoir une formation académique dans le milieu du jeu vidéo, qui a fait un master en jeu vidéo à Angoulême, game design plus précisément, et donc il s'est chargé de toute la partie game design, etc. Et il est à Paris, donc il a pas pu venir, mais il nous écrit avec sa jolie couleur cyan.
Oui.
C'est bonjour Anthony.
Oui, bonjour Anthony. Car tu ne peux pas communiquer avec nous, mais nous pouvons.
Ouais, il peut communiquer avec vous dans le chat, mais avec un décalage. Ouais. Voilà.
mais on va faire exprès de pas le dire. Par pur esprit de revanche.
Alors, je suis en train de composer un commandant d'armée là, en train de choisir. Oui, parce que du coup, il y a différentes unités en fonction de distance. Corps à corps, grandes catégories classiques.
Ouais, exactement. Il y a, oui, effectivement, donc distance, corps à corps. Il y a des volants. Il y en a qui ont des capacités spéciales, comme attaquer deux fois ou esquiver les projectiles. Il y a des unités de soins. Enfin, pas toujours tout à fait du soin, mais c'est ce qu'on appelle du soutien. Il y a des unités avec des attaques de zone. Enfin bref, dans chaque faction, il y a 12 unités. Alors actuellement, que 11. D'ailleurs, la 12e sortira bientôt. Et voilà, elles ont toutes des capacités un peu différentes. Et alors, chose importante aussi, donc là, on est sur une partie à 800 points. En gros, au début des parties, les joueurs décident. Donc là, c'est nous qui avons créé la partie, donc on a décidé.
Vous êtes les dieux.
Voilà, exactement. Décide du nombre de points de ressources de départ, et c'est à partir de ce nombre qu'on peut engager plus ou moins d'unités. voilà, 800 points, c'est le nombre moyen. Les petites parties, c'est en 500. C'est général. Actuellement, étant donné qu'on est au début de l'alpha, c'est plutôt en 500 que se jouent les parties. Là, on a fait une partie en 800 afin de pouvoir prendre quand même un peu plus d'unités et pouvoir les jouer un peu plus.
D'accord. Pendant le chat, ça commence à s'exciter. On vous salue, le studio Chahu.
Ah, c'est beau. Merci à vous.
Alors, est-ce que votre armée est prête?
Oui, très prête.
Ouais, nous on est prêts, on a triché pendant que tu parlais, on a composé.
Ah non, moi aussi j'ai composé la mienne. Alors, donc, la mienne est prête, un peu à la, on va dire, à l'arrache et à l'œil. Défaite, qu'est-ce qui se passe?
Ah, alors ça, c'est effectivement une déco serveur. En fait, étant donné qu'on est en partie... Alors attends, ce problème très rapidement... Étant donné qu'on est en partie en temps illimité et que c'est une fonctionnalité que j'ai implémentée hier pour le chat, la partie a toujours un peu le serveur a un peu du mal à comprendre le temps qu'on met à composer les armées. Donc on va refaire exactement la même en composant un tout petit peu plus vite et ça va aller tout seul.
Ok.
Hop là.
Bah alors déjà pour la suite des questions, pourquoi vous avez du coup décidé de faire un jeu sur navigateur et gratuitement et pas un jeu téléchargeable classique?
Alors en fait, le jeu sur navigateur, ça nous permet nous d'être très très proche de notre communauté parce que le jeu étant intégré donc il y a un site web est le support de la communauté et il y a beaucoup d'interactions entre le jeu et le site. En gros, bon alors outre les outils classiques de forum et de messagerie etc qui permettent aux joueurs de s'exprimer, tout ce qui est le classement est sur le site, tout ce qui sera ensuite la boutique en ligne sera sur le site. Il y a beaucoup d'éléments interactifs entre les deux, notamment quand on veut des informations sur une unité, ça ouvre une page du site avec des informations sur cette unité qui permettent différentes interactions. Bref, voilà, on a vraiment les deux sont liés et donc le navigateur nous semblait une bonne idée. Surtout que c'est vraiment un jeu qui a été pensé pour l'internet dès le début et il a jamais trop été question de faire des modes solo. Après, pourquoi gratuit? Alors donc en fait c'est un jeu en ce qu'on appelle en free to play gentil, c'est-à-dire que actuellement, de toute façon, le système des boutiques n'est pas en ligne, donc il est effectivement totalement gratuit. À terme, le jeu est totalement gratuit et le joueur pourra faire quelques achats de éléments, mais ce sera uniquement du contenu qui ne lui permettra pas d'avoir un avantage stratégique sur le joueur adverse.
C'est pas un pay to win, quoi.
Voilà, exactement. En gros, on vend des avatars, on vend des bannières. Bon, alors peut-être qu'on fera des tournois là où l'inscription sera payante, etc. Mais tout ce qu'on vend ne doit pas interférer avec le plaisir de jouer gratuitement. Notre ligne de conduite.
Ok. Et justement là, sur l'écran, ah non, je l'ai pas mis, mais en dessous de l'écran de jeu, normalement, il y a différentes monnaies qui sont déjà présentes.
Ouais, tout à fait. Il y a en gros les post-thunes et les points chahu. qui sont les deux types de monnaie actuellement. Le joueur peut gagner que des post-thunes. Les points chahut sont réservés quand la boutique sera ouverte. Et voilà, et ça lui permettra d'acheter des items. Donc là, la partie commence. Oui. Alors du coup, finalement, on joue tous les deux les vrac.
Oui, j'ai cliqué un peu trop sur prêt en fait. Du coup, j'ai pas eu le temps de choisir les repatchs. Bon, c'est pas grave.
Donc pour ceux qui veulent voir, c'est la faction que j'ai présentée tout à l'heure. Ça, c'est les gros animaux mutants qui veulent tout casser. On joue tous les deux la même. Peut-être que si la partie va vite, on pourra en faire une petite rapide deuxième où on rencontrera les deux autres factions.
Ok.
Alors je tiens à dire que c'est Gwen qui joue à côté de moi pendant que moi je parle, parce que comme on est tous les deux un peu monotachistes, surtout lui, ça nous permet de diviser efficacement le travail.
Si vous voulez nous battre, il faut nous poser plein de questions, comme ça on n'arrivera plus à jouer.
Oui, tout à fait.
Moi je fais les deux, donc c'est encore pire à tout seul. Alors du coup, oui, pendant la création du jeu, pourquoi vous avez décidé de vous tourner vers plutôt un jeu de stratégie au tour par tour?
Eh ben, en fait...
C'est en amont, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que c'était plutôt le principe de base. C'est-à-dire qu'on est vraiment... En fait, pour résumer l'histoire, ce jeu est vaguement adapté d'un jeu plateau que j'avais conçu avec des potes il y a très longtemps, et qui avait déjà les grandes lignes et donc qui était déjà de stratégie en tour par tour avec pas de hasard. Après, la plupart des autres trucs ont changé, mais en gros, l'idée de faire un jeu de stratégie en tour par tour sans hasard était vraiment la première idée, avant toute notion d'univers, d'histoire, etc. C'était vraiment le postulat de base, quoi.
D'accord. Alors j'adore ce petit cette ours polaire avec un pingouin. C'est une référence au jeu de je sais plus comment il s'appelle, mais
Yeti Sport.
Oui, voilà, Yeti Sport, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Parce que les gens l'ont reconnu aussi avec je vais zoomer dessus d'ailleurs pour qu'ils le voient bien, voilà, donc, si vous n'avez pas compris la référence maintenant elle est claire.
Yes.
Alors du coup oui, à propos de l'équipe, comment s'est formé autour du jeu exactement dans sa globalité?
Bah déjà comme je disais tout à l'heure, le triumvirat justement du début, c'est trois potes. Donc moi et Gabriel, on était en primaire ensemble. Anthony, on se connaît par d'autres biais, mais on se connaît depuis très longtemps aussi. Et puis il s'est avéré que par rapport au projet de Gabriel, donc du jeu dont il parlait, qui à la base était un jeu de plateau, mm-hmm. nos compétences respectives se combinaient assez bien. Moi étant illustrateur de formation et Anthony étant dans le jeu vidéo aussi, c'est ça qui a permis de former le premier noyau dur, on va dire. Et puis après, c'est par le biais pas mal des affinités aussi. C'est vrai que ce qui a fait le plaisir et le succès du studio Chahut, c'est que on a choisi nos collaborateurs en fonction de nos affinités. Et donc il y a Pierre qui nous a rejoint, qui est un ami d'Anthony à la base, qui lui s'est chargé de toute l'interface et du graphisme. Il y a Trois de Trèfle qui aussi est un ami de Grenoble, qui lui s'était chargé de toute la musique, son design, etc. Il est dans les parages, mais en tout cas, on le salue. Et ensuite, alors par ordre chronologique, je sais pas, mais pareil, toujours en affinité, on a recruté un décorateur, des animateurs. Alors, finalement, on est presque une quinzaine à participer au projet activement, avec un noyau dur de 5 personnes qui sont Trois de Trèfle, Pierre alias, et donc Anthony, Gabriel et moi. Et c'est surtout une joyeuse bande de n'importe quoi, si on veut définir le tout simplement, rapidement.
Oui, je pense qu'effectivement que c'est bien dit. Voilà, pour l'équipe complète, on est une quinzaine, en comptant effectivement tous les community managers, les traducteurs, etc., etc., qui nous filent des coups de main occasionnels, mais précieux.
D'accord. Oui, encore Anthony Dutch qui s'occupe du chat, merci à lui.
Yes, parfait.
Mais donc pour l'équipe en globalité, vous financez comment? Vous avez des travaux à côté chacun, ou vous êtes à temps plein sur le jeu?
Alors c'est un peu différent pour chacun. Donc actuellement, ce qui est sûr, c'est que le jeu ne paye personne, hélas. Mais on espère qu'à terme il pourra. Donc effectivement, on est tous plus ou moins à temps plein, suivant ce que nous permettent nos boulots alimentaires à côté, justement. Donc voilà, ça, dans l'équipe de 5, l'activité principale de la plupart d'entre nous. Après, certains ont un boulot à mi-temps, certains ont un boulot à plein temps et d'en bas. certains, voilà, d'autres n'ont pas de boulot, soit sont au chômage, soit même pas, etc. Et mangent des pizzas surgelées pour pouvoir travailler plus. Et voilà, donc chacun se démerde un peu pour réussir à subvenir de son côté en donnant un maximum de temps au projet, afin qu'à terme, ça...
Pendant la phase de développement, d'ailleurs, on a eu une phase en plein temps, où tous les trois, on était là à plein temps, notamment parce qu'on a eu des aides, hein, on a travaillé en service civique, notamment, on a pu se faire chapeauter par une asso. Donc ça nous a permis, sur la phase de lancement du projet, où là, il fallait vraiment être très investi pour arriver suffisamment loin et convaincre nous-mêmes qu'on pouvait y arriver. On est effectivement à plein temps avec des...
D'accord. Donc oui, c'est vraiment au mieux possible pour, pour ouais. développer le jeu. Et justement, comment vous espérez après pouvoir gagner de l'argent sur le jeu, vu qu'il est tout gratuit?
Alors, et ben justement, on va espérer que notre petite boutique, qui, même si elle ne vend que... en fait, donc tout à l'heure je l'ai présenté un peu simplement, en fait, on s'interdit de vendre effectivement des choses qui permettent d'être plus fort, mais on va quand même tenter de commercialiser des trucs sympas et que les gens auront envie d'acheter. Donc effectivement des nouveaux skins d'unité, alors on a par exemple un système de pourparlers dans le jeu. Donc il n'y a pas de chat entre les joueurs, ils peuvent juste s'envoyer des interactions sociales préenregistrées ou des smileys, et pour l'instant ceux qui peuvent s'envoyer sont très peu nombreux, mais à terme le joueur pourra en acheter. Donc il pourra acheter des packs d'insultes par exemple personnalisés pour les envoyer à son adversaire, et voilà toutes sortes de petits machins comme ça qu'on va vendre. Et qui, on espère, si on a de très nombreux joueurs, pourront progressivement commencer à faire entrer un peu d'argent. Après, ce qui serait rentable, si toujours, encore une fois, on trouve notre public, sera effectivement les tournois dont on a un peu parlé précédemment. Voilà, l'idée, c'est là, on s'adresse un peu à ceux qui ont l'esprit le plus compétitif d'entre vous. Puisque dans ce jeu il n'y a pas de hasard, et ben ceux qui se prennent pour des grands joueurs, libre à vous de vous inscrire à nos tournois. L'inscription est payante, mais vous pourrez ensuite gagner des lots. Et voilà. Et à terme, on espère en organiser régulièrement pour pouvoir un peu commencer très très progressivement à gagner notre vie.
D'accord. Bah en fait, vous visez un système comme tous les genres LOL ou Dota, quoi. C'est vraiment la communauté qui va se créer autour, qui va pouvoir financer le jeu sans avoir besoin de payer le jeu. C'est voilà. Tout ce qui va être créé autour, quoi.
Voilà, exactement. C'est clair et net que, de toute façon, le succès dépend à peu près uniquement du nombre de joueurs qui seront là. Après, il faut les rentabiliser, entre guillemets, mais ça, on n'aura pas trop de soucis. L'idée est vraiment d'essayer d'avoir un maximum de monde. Sachant qu'en plus, on espère que notre ligne éthique de pas de pay to win favorisera aussi les gens à jouer chez nous.
Cette magnifique victoire de la chouette.
Oui.
D'ailleurs, pour attirer votre attention sur ce qui vient de se passer, je sais pas si vous avez regardé un peu, j'ai utilisé pour il me manquait 10 points d'attaque ou 5 points d'attaque pour tuer ce petit écureuil volant là. Je me suis donc renforcé ponctuellement avec mes ressources que j'ai à la fois économisées sur des unités non engagées et à la fois récoltées sur le terrain avec cette gentille poule qui est en bas là.
Oui, qui récupère des coffres que je suis en train de montrer pour les gens, donc vous le verrez plus tard encore une fois, mais voilà, c'est ce genre de coffre là qu'il faut récupérer sur la map pour récupérer des ressources. Il n'en reste qu'une sur la map apparemment.
Ah oui, ouais. La vôtre, celle qui est de votre côté.
Ouais, j'ai encore oublié, j'ai oublié d'aller la chercher. Moi, je suis un peu la méthode bourrin. Moi, j'ai pas encore bien assimilé le coup des ressources qui donnent des bonus.
Mais nous aussi,
bonus, ça,
là, je tiens à préciser pour les gens qui nous regardent, je pense qu'on joue un peu tous les deux en mode un peu bourrin, on fonce dans le tas. Généralement, dans une partie, ça va un peu moins vite et les gens essayent un peu plus de tenir la distance pour se cacher au bon endroit, pour etc. Il y a un petit peu moins de fonçage dans le tas et ouais. Un peu plus de réflexion sur le plaçage de ces unités.
Oui. Alors, Gaming Up apparemment qui dit dans le chat, vous voulez vendre sur un jeu ou sur des sites comme Twitch?
Non, nous c'est vraiment tout sera sur notre site. Parce que encore une fois, comme j'ai dit, voilà, il y a vraiment le site est aussi le support de la communauté, et notamment avec tout ce qui est relatif au classement, etc. Voilà, ce sera vraiment sur notre site à 100%. Bah, ce qui n'empêche pas après qu'il y ait évidemment des replays et des démos sur Twitch, mais l'essentiel du commerce se fera sur notre site.
D'accord. Alors, je voyais la petite animation qui prenait du temps, je me posais des questions. Oui. Alors, on vient un peu d'en parler, mais votre objectif pour le jeu à terme, c'est vraiment de le garder gratuit jusqu'au bout.
Ouais.
Par ici. Voilà.
Ouais, ouais, en fait, ça aurait pas beaucoup de sens. Enfin, vu comment on a pensé. Oui, attention.
On va à un dégât de zone. Et, oui. Là, et pour le coup, il y a du tir à mi en 60 points.
D'accord, bon, mais maintenant je le saurais.
D'ailleurs, ceux qui suivent le chat le voient maintenant. Dégât de zone et. Bim!
Parenthèse, Scarabée qui d'ailleurs a une fonction de soignant pour les vrac. Il y a un espèce de gros sac à PV qui peut transférer ses points de vie aux unités alliées, en fait.
Ah oui, c'est vrai, il y a des...
Je peux le voir au bouton qui est au-dessus de ses stats, il y a un petit bouton de soin.
Oui, voilà, je le cherchais. Transfert de santé, effectivement. Ouais, parce que oui, c'est ça aussi, les unités ont chacune des propriétés qui leur sont propres. Pas toutes, mais certaines...
Ouais.
Par exemple, effectivement, le Messi Massu, Dévastation. Voilà, toutes les unités présentes autour de lui. Évidemment.
Exactement. Ouais. En fait, notre but était qu'il y ait suffisamment de règles pour que ce soit riche, en n'en mettant pas non plus un million pour pas qu'il y ait, pour pas que ce soit trop compliqué. Le but était que ce soit un peu complexe, mais pas compliqué, et du coup, il y a les capacités, les types de capacités spéciales différents sont pas très très nombreux, mais il faut quand même les connaître pour jouer à 100%.
Ok.
Je t'avais coupé, je disais quoi tu parles.
Oui, si, je disais qu'effectivement le jeu restera gratuit dans le sens où, enfin, il a vraiment été pensé comme ça, et notre but à la base, c'est quand même que les gens jouent à notre jeu parce qu'on en est content, on a bien aimé le faire et on veut le partager, quoi. Donc ce serait, même si évidemment il y aurait une certaine rentabilité derrière, ce serait triste de le faire payer à nos yeux. Et en plus, ouais, enfin la rentabilité est loin d'être certaine dans le sens où c'est pas, enfin on pense que le free to play s'adapte assez bien à ce type de jeu.
Oui, c'est vrai que pour attirer le plus de monde déjà des bases, c'est bien qu'il soit gratuit.
Ouais, ouais. Ouais, et puis en plus, s'il est gratuit pendant tout un temps, le temps qu'on trouve un public et qu'ensuite il devient payant, ce sera. Enfin là, c'est on est sûr qu'on aura une désertion générale. Quoi.
Ah oui, oui, évidemment, faut que ça suive derrière. Hein. Si c'est payant, hein, ça, et que ça risque d'en choquer plus d'un, que. Enfin, ouais. Déjà, ça va fermer la porte à certains joueurs qui peuvent pas payer, par exemple. Mais en plus, s'ils sont pas forcément après satisfaits du jeu, bah, ils vont se dire j'ai payé pour ce jeu, je suis pas très content.
Ouais, c'est plus l'inverse qu'on vise à compter sur justement la satisfaction du joueur en amont du paiement pour que ça vienne plus d'une volonté de nous aider, de soutenir le projet. Je pense que c'est des dynamiques qui sont nettement plus positives que de se sentir l'inverse justement, de voir si on est satisfait du jeu après l'avoir payé. Oula, on vient de perdre notre gros Rabain. Enfin, Messi m'a su pour le coup.
On est triste.
Ouais.
Qui est mort d'une façon assez magique.
Ouais. On s'est bien amusé sur cette animation.
Voilà. Et donc effectivement, il a quoi? Lui, il a plusieurs parasites sur son dos, à ce que je vois.
Ouais, si on zoome, on voit qu'il en a 5. C'est aussi pour ça qu'il est si costaud. Et donc, un tout petit rat qui s'est pris 5 parasites sur le dos. Et puis, avec tous les mutagènes qu'on connaît bien quand on parcourt l'univers de Passionnois, voilà. C'est un peu notre joker à nous. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on dit mutagène.
Exactement.
En l'occurrence, mutagène nous permet d'obtenir un rat géant.
Et pour l'anecdote, donc effectivement, les unités ont toute une voix qui disent des bêtises. Donc on a fait appel à pas mal de comédiens pour les enregistrer. Et le rabais, il est un peu particulier puisque c'est 5 voix en chœur. De cortège de moines qui sont en fait les 5 développeurs principaux du jeu qui prêtent leur voix à cette unité.
D'accord, ouais, ça rend plutôt pas mal du coup.
Ouais, alors, et pour l'anecdote, on nous a fait chanter et c'était très difficile pour ça d'entre nous. Et on a eu beaucoup, beaucoup de temps d'enregistrement et de rush juste pour cette unité.
C'est trop de trèfle qui vous a forcé à faire ça.
Voilà, exactement. On a enregistré d'abord tous en même temps, c'était infernal. Du coup, on a fait pendant plusieurs sessions.
C'est bien son genre. Hein.
Tout à fait.
Alors oui, bah du coup pour le jeu, quelles inspirations vous avez eues en termes d'ambiance et de gameplay? On en a un peu parlé tout à l'heure, un peu dans le chat aussi, mais clairement, qu'est-ce que vous avez eu comme inspiration, soit gameplay alors, ou ambiance?
Moi je vais parler gameplay et Gwen va parler ambiance.
Ouais.
Alors côté gameplay, moi la première référence c'est très clairement Advance Wars, qui est le jeu sur Game Boy Advance auquel j'ai le plus joué quand j'étais ado, et qui au final a pas mal de points communs dans l'aspect déplacement des unités, gestion de son armée, etc. Après, il y a pas mal aussi les phases de combat de Heroes of Might and Magic. Alors pour l'anecdote, moi j'ai pas énormément joué à ce jeu, mais les quelques parties que j'ai fait m'ont quand même suffi à bien mettre en place. Et notre game designer, lui par contre, il a beaucoup joué, donc ça lui a effectivement bien aidé. Voilà, c'est un peu les deux références principales. Peut-être qu'Anthony en a cité d'autres dans le chat. Après, moi j'étais aussi un gros joueur de Warcraft. C'est quand même assez différent parce que c'est du temps réel. Mais mine de rien, dans certains aspects, notamment les différents types d'unités qui sont potentiellement engageables, ça fait travailler le cerveau. Ouais, va présenter plutôt.
Ouais, alors du coup pour l'aspect visuel, c'est difficile parce que moi-même je viens du. C'est difficile de citer des références bien concrètes parce que moi-même je viens plutôt du monde du dessin et même si j'ai été joueur de beaucoup de plateformes. J'ai pas tant que ça parcouru le monde du jeu vidéo et surtout je me voyais pas du tout travailler sur ça. Au final, si je devais citer des gens, J'espère que, notamment les Ratchet & Clank, par exemple, pour ceux-là, on n'a pas encore vu la race des robots.
Mais, ouais.
Voilà, les espèces de robots qui aspirent autant de crainte que de rire et qui sont des espèces d'assemblées de machines à laver, pour la vaisselle, etc. Ça, c'est vrai que c'est un aspect un peu, comment dire, potache que j'avais bien envie de retrouver. Donc ça, par rapport au design des robots, c'est sûr. Toute cette espèce d'état d'esprit, on pourrait presque dire de jeu pour ados, où il y a tout, juste ce qu'il faut de second degré, où chaque personnage a juste ce qu'il faut de ridicule, et on essaie de trouver un équilibre comme ça entre la crainte et le ridicule. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais bien envie de retrouver. Après, pour ce qui est purement de l'aspect graphique, il y a... Je vais surtout dire que c'est un mélange un peu indescriptible entre la bande dessinée, les Exode Day, bien entendu, même si on peut pas. Les retrouvons là-dedans seront assez forts parce que c'est surtout un espèce d'énorme patchwork, mais je pense que si je me mettais à citer tous les jeux qui m'ont marqué, on en aurait pas un petit moment, mais voilà, c'est. Ça, moi, j'avais envie de. Essayer de renouveler sans prétention, je veux dire, essayer de renouveler l'esthétique, enfin pas l'esthétique, mais je veux dire les codes du genre, mais des personnages qu'on n'a pas forcément déjà vus, etc. Et du fait de mon dessin à moi, il y a un côté un peu traditionnel dans la façon de représenter tout ça.
Dans le chat, on disait aussi qu'apparemment l'humour ressemble à celui d'un Rayman.
Ah, et ben on le prend très bien. Dans les premiers jours de l'alpha, on avait cité, enfin les joueurs ont cité Cochon de guerre. C'est vrai que pour nous, c'est une très très grande référence. Cochon de guerre, donc pour ceux qui s'en souviennent, c'est une espèce de Worms en 3D avant l'heure, avec les voix des guignols de l'info.
C'est
et
ça,
du coup, Et du coup, je sais pas si on entend les répliques là, parce que nous on a coupé le son, mais du coup, chaque personnage a respectivement des répliques de sélection par l'ennemi, des répliques de déplacement et quelques petites blagues cachées dans les répliques.
Après, on invite les gens à tester le jeu, parce qu'on rappelle qu'il est gratuit, donc s'ils veulent écouter l'ensemble des répliques, ils peuvent le faire.
Il y a de quoi faire, en réplique. On s'est nous-mêmes amusés à les faire, on s'est nous-mêmes amusés à appeler nos potes pour un grand brainstorming de n'importe quoi, de blagues, etc. Bref. Pour le coup, il y a de quoi faire. Au fond de guerre, je pense que c'est une bonne référence aussi à nous pour ce qui est de l'humour.
Et
l'humour, au final... À une place bien importante dans le panel de direction qu'on a décidé pour le jeu.
Oui, c'est clair qu'il est un peu à toutes les étapes, aussi bien, alors dans les voix c'est le plus flagrant, mais en fait dans les animations aussi, très souvent les unités font un peu de la merde dans l'animation secondaire, dans l'interface, il y a souvent des blagues cachées, notamment toutes les fenêtres de confirmation, quand on demande de confirmer telle ou telle action, des blagues d'interface... Mais voilà, on essaye de pas trop se prendre au sérieux, même si voilà, c'est un jeu où il faut réfléchir. Ah, tu es... Alors, pour les...
Ah, une nouvelle technique, du coup, un nouveau truc à expliquer.
Voilà, alors les gens vont le voir très bientôt. Donc, Cladol vient de tuer notre champion. Et donc, une unité, au début du jeu, chaque joueur choisit une unité qui est son champion. Et si l'autre parvient à la tuer, toutes nos unités perdent 10 points de vie au début de chaque tour. Donc en gros, là, une sorte de compte à rebours a commencé. Il faut vite, vite qu'on gagne parce qu'au bout d'un moment, on va crever, quoi.
Et évidemment, quand on s'oppose, on ne sait pas qui est le champion de l'autre.
Voilà, exactement. Alors, pour la blague, nous, on sait parce qu'on voit ton écran.
Ouais, bon.
On a fait semblant de...
Voilà, on a fait semblant de pas le savoir.
Pour moi, ça me paraissait assez évident de base de choisir le gros costaud, quoi, pour le champion à chaque fois. Mais c'est vrai que on peut gruger les gens en leur faisant croire ça parce que c'est la première pensée qu'on aura.
Et puis en pratique, on se rend vite compte que au final, les grosses unités dangereuses qui représentent une menace sont assez vite celles qui sont ciblées en premier. Donc ça dépend de la partie, mais des fois on peut très vite regretter d'avoir désigné son champion pour une unité assez forte et menaçante. Ou là, en l'occurrence, c'était notre blaireau, donc il y a une unité qui est pas touchable à distance. Du coup, désigner son champion sur un blaireau, ça peut permettre de mieux voir venir un peu, de mieux contrôler un peu son exposition. Alors, en l'occurrence, c'est vrai, comme on disait, on a joué un peu à la bourrin, donc on l'a mis au premier rang.
Bah, tu me diras, moi aussi.
C'est vrai. Sauf que toi, du coup, tu peux peut-être plus te le permettre avec ton...
Oui, vu qu'il fait pas mal de dégâts.
Ouais, et puis surtout qu'il a une grosse réserve de points de vie. Mais du coup, ouais, le champion est donc un des deux relais de stratégie, le deuxième étant totem. Donc je sais pas si vous voyez, dans nos camps respectifs, il y a une espèce de petite sculpture. Et donc celui-ci, c'est donc le totem. Et pareil, une fois le totem détruit, l'armée va perdre 10 points de vie à chaque tour. Et si les deux totems sont détruits, ce sera 30 points de vie. Donc là, pour le coup... ça représente quand même une épée de Damoclès assez importante.
C'est un peu comme si ça activait le... comment je sais plus comment on appelle ça. C'est pas le suicide time.
La mort subite
si, c'est... Ouais, la mort subite, voilà. Yes. Merci. Oui, c'est un système de mort subite quoi, qui s'active tout simplement.
Oui.
C'est justement, ouais, il y avait le même système dans les Worms quand l'eau commençait à monter, par exemple.
Ah oui, tout à fait. Bonne comparaison, effectivement.
Tout à fait. C'est effectivement à la fois un système pour que les parties s'éternisent pas trop et qu'il y ait des choses pour accélérer en fin de partie, mais aussi des fois pas forcément en fin de partie, comme là en l'occurrence, hein, c'est pas vraiment la fin, il nous reste encore beaucoup d'unités, mais ça permet à un des deux joueurs de prendre un gros avantage sur l'autre s'il parvient à réussir l'exploit de tuer soit le champion, soit le totem, soit les deux, s'il est vraiment deux ou fort.
Alors, je déplace mes dernières unités. Attends, on va te mettre là, en mode rien à foutre. Tac. Alors oui, donc le jeu là actuellement, il est en période alpha. Enfin, il a eu une première période alpha.
Oui.
Et du coup, quels ont été les retours pour l'instant quand vous avez présenté le jeu en version alpha?
Alors, positif. On était contents. Bon, sachant qu'il faut savoir qu'évidemment, quand on ouvre une alpha comme celle-là, c'est auprès d'un public qu'on a déjà fédéré, donc c'est un public déjà demi-acquis. C'est sûr que on n'est pas à l'abri de gens qui aiment pas, c'est sûr, mais c'est plutôt un public favorable plutôt que la masse des vrais gens. Néanmoins, on a quand même été très content parce que voilà, le premier jour, on a eu 200 inscrits, il y a eu pas mal de bons retours. Alors la première semaine a été un peu éprouvante parce que du coup il y a eu pas mal de bugs signalés un peu partout et donc il a fallu vite corriger ça pour pas que ça devienne trop chiant de jouer. Mais une fois cette grosse vague de bugs passée, ouais, les retours sont positifs et on est bien content quoi. Alors bon, donc bien sûr il reste pas mal de trucs dans l'équilibrage, dans ceci, dans cela, enfin comme une alpha qui se respecte quoi. Mm-hmm. Mais les gens sont globalement contents. Après, le problème, c'est évidemment, encore une fois, un problème d'alpha, c'est que nous, c'est un jeu essentiellement quand même joueur contre joueur. Il n'y a pas, à part le tuto, il n'y a pas vraiment de mode solo. Et du coup, c'est intéressant que quand il y a tout le temps du monde en ligne pour trouver des adversaires quand on a envie de jouer quoi. Et donc c'était le cas au tout début de l'alpha. Et progressivement, vu qu'on n'a pas fait de com, puisque on avait déjà les retours dont on avait envie. Il y a tous les jours de nouveaux inscrits, mais progressivement il y a un peu moins en moins de monde sur le serveur en permanence. Et du coup aujourd'hui on est dans une période, c'est pour ça qu'on dit que l'alpha est officiellement, cette première alpha est officiellement terminée, c'est dans le sens où on assume le fait qu'il y a beaucoup d'heures où les gens peuvent se connecter et trouver personne à affronter. Mais c'est normal, c'est une période de transition, c'est parce que nous on est en train de bosser comme des porcs sur les prochaines grosses améliorations. Quand elle sera là, on relancera une vague de com, là on la fera propre et durable, et donc on espère qu'il y aura du monde tout le temps.
D'accord. Et justement, au niveau de ces nouveautés, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'instant, les prochaines choses que vous pensez ajouter rapidement dans le jeu?
Hey ! Alors, petit panorama pour faire baver les gens. Alors, d'abord, un truc qui va être ajouté très très bientôt, c'est une petite modification, mais quand même. Sachez que un pouvoir qu'on n'a encore jamais utilisé depuis le début, mais qui existe, c'est que les unités peuvent créer des obstacles. Et en fait, ça, c'est assez utile en bataille. Enfin, c'est assez cool parce que ça permet de créer des embûches au chemin de l'adversaire, de se cacher derrière, etc. Mais cette capacité est actuellement très peu utilisée parce qu'en fait, elle est mal équilibrée. Enfin, en gros, c'est à la place d'une attaque et en plus, elle coûte des points de ressources, etc. On va un peu la changer pour en faciliter l'utilisation, et normalement dans les prochaines parties, les terrains d'affrontement ressembleront à des vrais champs de bataille avec plein d'obstacles existants, des obstacles détruits et beaucoup d'obstacles créés, ce qui fait une map en perpétuelle évolution et avec des enjeux un peu toujours différents à mesure que les obstacles apparaissent et disparaissent. Donc Donc voilà, ça c'est une petite mise à jour entre guillemets, mais j'en parle parce qu'elle est sur le feu là et qu'elle va pas tarder à sortir. Sinon, dans les vraies grandes mises à jour, à part l'équilibrage, ça va surtout être le système de boutique, donc comme j'ai dit, qui actuellement est complètement inexistant, et avec lui, beaucoup de choses qui vont permettre le méta-jeu plus facilement. Par exemple, beaucoup plus de portraits débloquables pour les joueurs, des skins d'unités, des pourparlers beaucoup plus nombreux, etc. Donc tout un truc pour rendre le jeu un peu plus agréable à jouer. Un système de classement aussi mieux mis en place, puisqu'actuellement il est quasiment nul, des tournois, et du point de vue des différents modes de jeu, un mode pour précomposer ses armées au début afin d'aller plus vite dans la phase de composition,
un mode genre de deck.
Voilà, exactement. Un mode de replay pour pouvoir revoir les parties jouées, donc avec des fonctions d'accélération pour pouvoir voir en 5 minutes une partie qui a duré un quart d'heure et pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé où et quand. Et dans le futur un peu plus lointain, des parties à plus de 2 joueurs, parce que pour l'instant c'est toujours du 1 contre 1, mais dans le final il y aura du 3 joueurs, du 4 joueurs, du par équipe, du chacun pour sa peau, enfin un million de trucs différents. Un éditeur de cartes pour le public, puisqu'actuellement il en existe un, mais uniquement pour les développeurs, et donc on va en mettre un à disposition du public, ce qui permettra aux gens de créer leurs propres cartes, et ensuite de s'affronter dessus. Et pour encore un peu plus le futur, l'enrichissement de cet éditeur de cartes par un vrai éditeur de script qui permettra de créer des événements divers et variés pour que le joueur puisse créer ses propres campagnes solo. Voilà, tout ça c'est dans les tuyaux, en fait c'est tout est plus ou moins commencé puisque c'est des outils qui nous servent. Par exemple, l'éditeur de script, bien, il y a déjà les bases puisqu'elles nous ont servi à créer le tuto, mais actuellement il est pas du tout assez bien assez élaboré pour être vendu, enfin donné au public des formations professionnelles, mais voilà, tout ça c'est pas que des idées, c'est vraiment des choses dont on connaît la faisabilité et qui sortiront au fur et à mesure des mois. Dernier petit point, on sera plus en alpha normalement quand arriveront ce genre de choses. Là, probablement dès que la boutique sera là et qu'on aura suffisamment de corrections de bugs et de contenu ajouté, on passera en bêta et une fois tous les bugs corrigés, il y aura une première version finale du jeu sans les éditeurs et ceux-ci viendront après. Ah, et tout dernier petit point de rajout aussi, tout un système d'achievement et d'objectifs secondaires. Qui permettront encore une fois du méta-jeu, que le joueur il n'y ait pas que sa partie en cours mais aussi des petites idées de si j'arrive à tuer 4 unités avec un seul rat, ça me permet de débloquer un titre, etc. Ce genre de petits machins qui font toujours plaisir et qui permettent au joueur à la fois de collectionner des titres et à la fois de débloquer des nouvelles choses.
De grands objectifs en perspective, quoi.
Exactement.
Pour vraiment développer le jeu au maximum.
Et je suis en train, parce que je laisse Gwen jouer, en fait on se fait défoncer depuis qu'on est
champion. Rien n'est joué tant que c'est pas joué, comme on dit.
On mangera sur la deuxième partie.
Ouais, là, au prochain tour, on va perdre pas mal de gens du fait du moins 10. Ouais.
Là. Moi je gruge un peu de temps en temps là, hop. Je suis en train de gruger aussi parce qu'en fait j'ai envoyé mon blaireau en mode fufu attaquer le totem.
Ah, attends, on a eu une saute audio.
Ah.
J'ai pas compris ce que t'as dit.
Je disais que j'ai déjà envoyé un blaireau en mode fufu pour attaquer le totem.
Ah oui, effectivement.
Alors ouais, du coup là, de toute façon, je pense que le totem t'en aura pas fini avant que nous on soit tous morts juste par le deep.
Oui, effectivement, vu qu'il y a 400 de vie. Mais j'envoie mes petits rats quand même, mes proliféras en soutien, mais bon, ça ne sera pas. C'est vrai que si je pouvais envoyer le Messie Mathieu, ça serait plus simple. Alors, il va un peu se reculer parce qu'il est un peu en train de décéder. Et je l'ai rapproché d'un ennemi, très bien, je suis doué. C'est vrai que sur le moment là, quand on va sur les... Comment ? Il n'y a pas vraiment de gros moyens de visualiser qui est l'ennemi ou qui est allié actuellement sur le niveau.
Ouais, c'est principalement dû au fait qu'on joue la même faction actuellement. Mmh. Donc on distingue les ennemis parce qu'ils sont dans l'autre sens, ils sont retournés par rapport à nous et qu'ils ont une autre couleur. Mais en fait, dans le jeu... dans le mode conquête, alors pas en alpha parce qu'on n'a pas assez de joueurs, mais à terme normalement on n'affrontera jamais sa propre faction.
Effectivement, je suis en train de voir aussi, c'est en fonction de là où ils regardent les ennemis.
Oui,
de la façon dont ils sont tournés. Ouais, d'accord, ok, ouais, donc nos unités regardent le totem adverse, on va dire.
Voilà, exactement.
Ok, ouais, donc ça va, c'est moi qui suis juste débile qui l'ai pas vu avant.
Et puis il y a une petite zone de couleur aussi qui change
Effectivement, ouais, aussi. Oui, ouais, je vois que vous êtes blanc. Par exemple, la cible autour du, sur le bide de l'ours est blanc.
C'est ça.
Moi, tout est violet.
Justement, en fait, du coup, vu qu'on a tous les deux choisi la couleur violette, en l'occurrence, on voit l'adversaire en blanc. Mais
d'accord.
Quand l'adversaire a choisi une autre couleur que la nôtre, bah, du coup, ils sont visibles. Bon, là, je vais essayer de. Ouf. Je vais bientôt voir quand tu peux passer ton tour, ça va être l'hécatombe.
Normal, j'ai terminé mon tour.
Donc on passe en.
Alors du coup, oui, pour vu que le jeu est totalement gratuit, vous êtes quand même passé par une campagne Ulule pour financer le début du jeu.
Tout à fait. L'année dernière, ouais, nous aussi on a tué ton champion.
Comment vous avez deviné, je ne comprends pas.
Mais non. L'année dernière, on a lancé effectivement une campagne Ulule pendant tout l'été en fait 2013. Ça a été assez cool parce qu'en fait, outre la petite somme récoltée, donc un peu moins de 5000 euros, ça nous a pas mal permis de faire de la com et de fédérer des gens dont beaucoup ont ensuite été les testeurs de l'alpha. Donc ça c'était assez cool voilà, à ce niveau-là. De toute façon, je pense que le crowdfunding pour un projet comme le nôtre est un peu toujours une bonne chose parce que voilà, ça n'est pas avec 5000 euros qu'on va financer une équipe de 10 personnes, mais c'est toujours un petit plus appréciable et voilà, il y a vraiment cette dynamique qui se crée autour du jeu. Nous, ça nous a incité, pour remercier les gens qui font des contreparties, à créer des produits dérivés, des badges, des posters, des t-shirts. On a ensuite pu redistribuer lors d'événements, donc bref, ça fait toute une émulsion autour du jeu, et c'est assez cool.
Alors hop, moi je tente des techniques, parce que là, je pense que pour nous deux, c'est un peu la dèche, au niveau déjà des champions. Alors, qui c'est qui me
alors,
reste
pour, je vois ce que tu viens de faire, là, justement, avec ce que les joueurs sont en train de voir, avec ton koala, tu viens de... enfin, avec ton caribou... Il est chevauché par un koala, donc un archer. Tu as tapé un obstacle pour pouvoir me tirer dessus, et en l'occurrence cet obstacle-là, celui qui est une espèce de petite forêt de bambou,
oui,
est une meurtrière, c'est-à-dire que quand tu es sur une case adjacente, avec un archer, tu peux tirer au travers.
D'accord.
C'est pour se cacher,
effectivement, ouais.
Bah, c'est des choses que tu vois au survol avec ta souris. Il y a trois types d'obstacles, les obstacles complets, destructibles, donc 4 si on compte les obstacles complets indestructibles qui sont surtout là pour décorer. Les obstacles en meurtrière, donc qui sont traversables par les projectiles seulement lorsqu'on est sur une case adjacente, et les obstacles complètement traversables par les projectiles. En l'occurrence, on en voit cette espèce de racine
ouais,
à l'entrée des petits bosquets là, et du coup ceux-ci sont complètement traversables par les projectiles, mais il faut pour traverser à pied les détruire. Excusez-moi, je vais faire un petit bruit.
La maladie.
Exactement. Donc voilà, effectivement, il y a quand même des subtilités, mais toutes ces subtilités ne sont pas nécessaires pour les premières parties et on les acquiert un peu au début. De toute façon, après le tuto, il y a une phase d'entraînement où voilà, le joueur apprend un peu progressivement tout ça. Et avant d'être vraiment lâché contre les champions.
Oh la vache, il s'est envolé.
Oui, on a eu une éjection de quoi là.
Très bien.
Notre caribou koala est mort, bah oui.
Eh oui, c'est triste.
Du fait du... Bah alors, pardon, nous, on l'a appelé comme ça, mais son vrai nom est le koala tapute. Entendu.
Oups. Je vais essayer de voir d'augmenter si je peux monter les répliques. Ah ouais, non, tout est au max de toute façon. Alors je sais, je vais baisser le volume de la musique. Les bruitages, je vais les laisser un peu. Les voix. Le volume des sons de pourparlers, on va les laisser aussi.
Ah d'ailleurs, ouais, on les a pas utilisés, les pourparlers.
Je vais juste laisser les voix pour qu'ils puissent entendre un peu mieux ce que disent les personnages. Je vais monter au taquet.
Bon, Gwen, la joue stratégique parce qu'il a planqué une de nos unités sur un terrain de soignant. Moi, je vais pas le faire parce que je suis pas un gros lâche comme lui. Donc je
voulais faire semblant d'avoir encore un peu d'espoir de m'en sortir, mais de toute façon, là, nous, nos unités, au maximum, notre bélier, il a 100 points de vie, donc il a 10 tours devant lui. Sinon, tous les autres, là, ils ont plus beaucoup d'espoir de vivre.
Ouais. Donc, ouais, ils entendent un peu mieux maintenant. Ouais, les rails parlent un peu fort quand même. Je vais laisser un peu profiter les gens des répliques, on va rien dire.
Bien.
Explosion de la chouette. Il me reste... Blaireau, comment ? Voilà. Donc le blaireau qui est marseillais.
Oui, tout à fait. Oui, alors, en fait, pas mal de nos unités ont des origines diverses. Et bon, c'est un peu évidemment un prétexte pour faire plein d'accents rigolos, hein, mais c'est vrai qu'on peut trouver des gens, des Marseillais, des Russes, des Allemands, toutes sortes d'accents divers et variés. Voilà, avec des... Notamment chez Airpatch, où on s'est dit que c'est drôle de s'imaginer que les robots ménagers du futur... conçu d'après les stéréotypes racistes de leur créateur. Voilà. On a les Allemands qui nettoient tout, etc.
Alors oui, du coup, dans la création de ce jeu, c'est quoi qui vous a le plus, comment dire, inspiré, amusé? Qu'est-ce qui vous plaît le plus, en fait, dans la réalisation d'un de ces jeux?
Une vaste question.
Ce qui nous a le plus amusé? La première étape, c'était surtout l'étape de conception du bain narratif dans lequel a baigné Tourette. C'est-à-dire que, au final, rien de plus facile de créer des personnages quand on a une histoire et qu'on a, par exemple, une faction qui a des velléités politiques. Par exemple, pour ce qui est des vrac, c'était beaucoup plus facile de créer tout un contexte et des unités quand on avait leur système de bande, comment ils fonctionnent socialement, etc. Et donc ça, c'était très amusant de créer tout ce, on a tout mis dans tous les textes apocryphes et le background narratif du jeu, et tous les manifestes politiques, par exemple des anthropistes, quand ils ont décidé de faire une scission avec le reste des Stronks, par exemple. Tous ces éléments narratifs là, on a fait ça tous les trois au départ, et c'était particulièrement très amusant à faire. Notamment qu'on avait. C'était plus ou moins un accord tacite, qu'on n'avait pas vraiment de limite éthique,
on va dire.
De limite éthique à nos délires. Du coup, ça c'était très très marrant, on s'est bien amusé. Je pense que ça peut-être se retranscrire en fonction du bon goût dans les répliques. Donc ça c'était très marrant. Après, très personnellement, moi c'était encore une autre partie de plaisir de justement concevoir tous ces gros drôles de personnages-là en fonction si donc c'est des robots ménagers à qui on a demandé finalement de partir sur le champ de bataille et qui vont devoir essayer de se battre plus ou moins en lançant des assiettes, des boules de poussière, en essayant de laver l'ennemi tellement fort qu'il en meurt, etc. Ça c'était très marrant. Pour ce qui est des vracs, pareil, on aurait pu... alors d'ailleurs, il y a eu quelques débats assez enflammés dans l'équipe. Avec les vracs, on avait tout le panel des animaux qu'on connaît bien pour créer des personnages. Là, voilà, pareil, est-ce qu'on prend le rhinocéros, l'éléphant, le lion, tous ces animaux qu'on connaît, c'est menaçant, ou est-ce qu'on prend des animaux, pareil, qui vont peut-être plus d'abord faire rire et qu'on va essayer de modifier, de designer pour qu'ils aient ce côté menaçant qu'on a essayé de trouver chez les vracs. Voilà, par exemple, là, on a un bélier qui n'est autre qu'un gros mouton avec des cornes. On a un tatou, on a un caribou koala, on a une poule. On a donc transformé en poule raptor pour que ce soit l'unité la plus rapide du jeu. Bref, c'était très marrant aussi de jouer avec les mutagènes et de créer des bestioles rigolotes. Et pour ce qui est d'anthropistes, là, nous, on avait plus comme vecteur de... en sorte que eux voulant réinvestir la civilisation humaine à l'endroit où elle a été abandonnée, ils avaient comme envie de se rapprocher et de s'éduquer eux-mêmes par rapport à tous les résidus de l'humanité. C'est là qu'on a décidé qu'ils avaient appris à lire dans les décharges, donc sur les paquets d'emballage, donc tous les patronymes des personnages comportent des noms de marques, etc. Enfin, bref. Et en fonction des différentes disciplines, des arts martiaux japonais ou les différentes icônes de l'histoire humaine, par exemple le colon. On a un des archers anthropistes qui est un colon plus ou moins xénophobe.
Et vraiment, au niveau de l'éthique, ouais, c'est YOLO, quoi.
disons que nous, on avait tout ce panel, là, pour les anthropistes, on avait tout le panel du foutrac de l'humanité dans lequel on pouvait piocher pour... Ah, voilà. Donc ça, c'était aussi très, très rigolo. Pour ma part, il s'agissait de les dessiner. Après, on s'était mis tous les trois en gros brainstorming pour invention.
Ah, je pense que tout va se jouer maintenant.
Ouais. Combien de vies il a, ton caribou, là?
20.
20.
30.
Non, on va se planquer.
Non, restez là, c'est bien. Je vais vous retrouver de toute façon.
Hop là. Ce caribou bénéficie d'une vitesse de déplacement hors du commun.
Oui. Ouais, non, c'est clair que là, c'est la fin de la partie et ça va se jouer à rien. Et du coup, oui, pour terminer sur ta question, Gwen a bien dit que c'est vrai que pendant la phase de conception, on s'est vraiment bien marré parce que ça a été très long, mais très riche et très productif. Après, parce que ça, c'était quand même il y a 3 ans. Après ça, pour moi, là où on a le plus pris de plaisir, en fait, c'est pendant ce qu'on appelle les périodes de rush. Alors, il faut savoir qu'en fait, notre équipe est divisée un peu partout en France. Donc, on a un noyau dur à Grenoble, mais on a aussi des gens à Angoulême, Paris, même en Belgique. Enfin, c'est le bordel, quoi. Et donc, on essaye de temps en temps de se réunir tous à Grenoble pendant, alors ça va de 9 jours à 3 jours, ça dépend de quand on peut, pour ce qu'on appelle des périodes de rush où on travaille tous ensemble. Donc, on travaille beaucoup, mais on rigole aussi beaucoup. On est un peu, enfin, voilà, on est tous ensemble dans des apparts plus ou moins grands. Et du coup, forcément, à chaque fois qu'il y en a un qui partage une connerie, tout le monde la voit. Donc, très vite, ça dégénère. Et c'est vraiment des bons moments où on mange des pâtes tous ensemble et on travaille jusqu'à 3h du matin et on s'insulte et c'est la joie.
Voilà. Une équipe de développement.
Exactement.
Je pense que nous avons gagné.
Mais par lâcheté.
C'est pas de lâcheté, c'est de l'instinct.
Non, mais si, c'est de la lâcheté parfaitement assumée. Tout à fait.
Ah, mais on a bien tenu quand même.
Ouais, non, c'était beau.
Surtout quand on voit de quel gros bazar c'est parti.
Oui. Oui. Et alors, pour la blague, on ne quitte pas tout de suite. Je vais envoyer. D'inspiration. Une petite blague, donc pas parmi les différentes blagues d'interface, le gagnant peut envoyer un message au perdant à la fin de la partie et le perdant ne peut pas lui répondre. C'est voilà.
La frustration totale, quoi.
Exactement. C'est de la pure méchanceté. Mais voilà.
Effectivement, comme disait Anthony, j'ai oublié, mais j'avais des ressources donc j'aurais pu me déplacer plus loin et te faire des dégâts.
C'est vrai.
Ou même te rajouter de la vie, tout simplement.
Ouais, te rajouter des points de vie et tenir.
Mais bon, voilà, c'est les choses que j'oublie très rapidement dans les jeux de stratégie.
Et d'ailleurs, on s'est vite rendu compte avec cette implémentation de phrases à sens unique qu'en fait, les joueurs étaient bien trop bien éduqués et que la plupart des phrases auxquelles on avait le droit, c'était des bien joués ou des superbes parties et pas encore de grosses insultes.
Bien fait, c'est quand même une insulte.
Bah là, c'est parce que c'est le créateur de cette même phrase qui s'en sert, donc.
Parfait.
Avec tout son machiavélisme.
Et si j'ai un tout dernier truc à rajouter encore sur la question précédente qui nous occupe apparemment, la dernière pour moi grande phase de joie, ça a été en fait au lancement de l'alpha où on a commencé à jouer vraiment contre des vrais gens. Et ça a quand même été un bon kiff de voir que ce sur quoi on travaillait depuis 3 ans, même si il nous était arrivé de faire une deux petites parties entre nous, ça restait vraiment du pur test quoi. Bah on a pu jouer à notre jeu et ça faisait vraiment plaisir.
Ouais.
Alors, vous avez pris les anthropistes ?
Ouais, tout à fait.
Ok, donc moi j'ai pris les airpatch, donc c'est bon.
Parfait ! Et donc, nouvelle bataille, nouvelle carte et nouveau décor. Cette fois, on décide de vous montrer une cité humaine abandonnée.
Ouais.
Et voilà, donc chaque carte a un peu ses enjeux. Celle d'avant était finalement assez polyvalente puisqu'il y avait une grosse zone de conflit. Sur la nouvelle, là, c'est un peu plus, la carte est un peu plus petite. Il y a plus de cette grosse zone au centre qui est difficile d'accès et qui est à la fois riche en bonus et à la fois pleine de grosses plaques chauffantes qui font mal si on y met les pieds. Donc voilà, il y a différents styles de cartes comme ça qui permettent différents gameplays.
Et là, on commence avec du coup beaucoup moins de ressources.
Ouais, j'ai mis que 500 points parce que vu qu'on a moins de temps, je me suis dit que ça permettrait de, comme ça, on montre vite fait, mais sans s'éterniser de la vie.
Alors nous avons une magnifique machine à laver qui s'appelle Abdel. C'est juste magique.
Tout à fait. Oui, en fait, chez les Airpatch, chaque unité a un prénom humain qui est en fait un acronyme de sa fonctionnalité.
Et Abdel, c'est agent de ballotage délicat. Ballotage délicat du linge, je crois. Non, ouais, Abdel, il manque un E. Ballotage délicat et entretien du linge.
Voilà. Ouais, tout ça est visible sur le site du jeu. Il y a des
petites fiches unités.
Voilà, il y a des fiches unités. Et là, par exemple, ça. Alex en, en ballottage délicat et entretien du linge.
Après, nous avons aussi du Rémi, du Odd, voilà. Du Mario, du Serge.
Exactement.
On a de tout. Et bien sûr, Mario est italien hein, et il fait la cuisine.
Et bien évidemment.
Et il a une moustache.
C'est ça. Il a une moustache qu'on peut voir là. On peut voir la moustache.
C'est en fait une petite brosse pour nettoyer ses lames. Ce n'est pas une moustache.
Tout à fait. Le Mario étant un module alimentaire de restauration itinérante organique. Évidemment.
Évidemment.
Puisqu'il se déplace pour faire manger.
Et qu'on mange des choses organiques, a priori.
Ah donc c'est à vous de commencer, d'accord, parce que... Ouais, non, ça va.
Hop. Ouais, c'est à toi, c'est effectivement, on n'avait pas validé notre armée, donc c'était à toi de commencer. Oui, ça, la plupart des joueurs ont mis beaucoup de temps à comprendre. Le premier joueur qui valide son armée commence.
D'accord.
Qui, normalement, n'est pas censé être un trop gros avantage, puisque Enfin, mais ça s'équilibre.
Un petit creux. hop. Alors j'ai placé l'idée. Alors oui, vu qu'on a fait un peu le tour du jeu là, quand même, on va quand même, on est un peu à l'hiver du JDG. On va peut-être parler un peu du JDG rapidement avec vous. Vous avez connu le JDG comment et pourquoi vous appréciez le JDG au final?
Alors moi j'ai connu alors quand exactement c'est difficile à dire, je pense il y a un peu plus de 2 ans, quelque chose. À peu près. Et en fait, pour la petite histoire, je regardais occasionnellement parce que ça me faisait rire, mais c'est surtout ma copine qui est une très très grande fan et qui maintenant, c'est un peu, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de suivre la chaîne puisque de toute façon, quand une nouvelle vidéo sort, elle m'alpaille afin que nous la regardions ensemble immédiatement. Donc voilà, donc c'est un peu mon poisson pilote dans l'aventure du JDG. Voilà, ce qui m'empêche pas.
C'est une aventure conjugale, le JDG maintenant.
Et c'est tout à fait ça. Exactement. D'ailleurs, elle était surexcitée de savoir que nous passions dans ce live. Elle nous écoute probablement. Elle est au boulot, mais ça ne doit pas l'empêcher d'avoir une oreille quelque part pour nous écouter. Voilà. Et je me souviens plus de la question entière.
Pourquoi vous appréciez le JDG?
Ah, parce que c'est drôle. non, mais avant tout, c'est un intérêt pédagogique aussi, dans le sens où on découvre des vieux jeux. Alors, soit des jeux auxquels on a joué quand on était gamin et qu'on avait oublié, et donc ça fait une bonne tranche de nostalgie, soit des jeux qu'on connaissait pas du tout, et donc effectivement ça nous permet de découvrir. Mais je pense que c'est quand même avant tout un intérêt récréatif, dans le sens où bah, on se marre bien. Et
puis la meilleure façon de ne pas reproduire des erreurs sont de se renseigner sur celles qui ont été faites dans le passé. La meilleure façon de pas voilà, ça. Ça même pour nous développeurs, ça a une fonction très importante de documentation sur ce que les gens ont mal fait dans le passé.
Ouais, exactement. On se dit tout le temps, est-ce que ça risquerait d'énerver le GDG ou pas?
du coup, je pense qu'on a fait quand même, on a fait pendant presque plus d'une heure le tour de mes questions. Alors, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va les poser directement là. On va continuer notre partie pendant qu'on attend que les questions tombent. Alors, n'hésitez pas à en poser. Encore facilement un quart d'heure devant nous.
Pour la petite histoire, le colon xénophobe dont je parlais tout à l'heure, c'est le petit avec le chapeau de colon. De Tintin au.
Des missionnaires.
Voilà, c'est ça. Ou deux missionnaires, en fonction de comment on le prononce. En l'occurrence, là, il est petit, il s'appelle comme ça.
Des paysagistes.
Et donc là, le soignant des anthropistes, en l'occurrence, est un espèce de fakir sadomaso. Il va venir se lier avec un lien psychique avec l'unité qu'on a choisi et qui va prendre les dégâts à sa place. En l'occurrence, je lis.
Avec ce magnifique nom, le fakir toupir.
C'est ça.
Oui, on a eu des gros brainstorming pour les noms des unités. Ça a été des débats houleux, mais amusants.
Ah oui, oh, fais-moi mal, Johnny. Voilà, alors, est-ce que les questions tombent? Non, je ne pense pas. Les questions ne tombent pas pour l'instant.
Il m'avait semblé en voir passer tout à l'heure, mais hélas, je ne les ai pas retenus.
Bah, je pense qu'Anthony et...
Anthony a répondu.
Il y avait quelqu'un d'autre, Really a Dinosaur aussi, qui
ouais,
apparemment... Hein. Ok, voilà. Il répondait aux questions du chat aussi. Donc, ça se trouve, tout le monde a eu leur réponse.
Bon, bah, espérons qu'ils ont été exhaustifs.
Donc, là, techniquement, si je tape le dépaysagiste, voilà, on peut le voir.
Ah, exactement, il y a l'autre qui a mal derrière.
Voilà, donc Anthony n'est pas totalement parti, il est encore là, même s'il est au travail.
C'est bien, il est en sous-marin. Et alors pour l'anecdote aussi, donc les différentes factions, outre le fait qu'elles soient très différentes visuellement et donc drôles, aussi les styles de jeu un peu différents chacune en fait. Les Vracs sont majoritairement plus rapides dans les stades de leurs unités, donc ça permet d'avoir des jeux assez agressifs où voilà, on fait des petits allers-retours pour aller se cacher et pour attaquer l'ennemi en succession d'escarmouches. Les Anthropistes ont globalement une portée plus longue, ils ont les meilleurs archers et les archers qui tirent le plus loin en tout cas. Et même pas mal de leurs unités ont une petite portée, donc ça permet voilà de tenter de maintenir la distance en combattant. Et les Airpatch sont globalement plus résistants et plus forts, ce qui leur permet une fois parvenus jusqu'à l'ennemi de faire bien mal. Voilà, donc c'est trois délires, trois motivations politiques différentes et trois styles de jeu.
Alors on peut voir le raton laveur pickpocket. C'est bien le raton laveur.
C'est le Ayai, le truc noir au centre là.
Oui, intouchable. Ouais.
Oui, alors cette créature est un Ayai. Très, oui, bah, alors pour l'anecdote, on a fait beaucoup de biologie pour créer nos anthropistes, puisqu'on a dû se renseigner sur tout un tas d'espèces de singes bizarroïdes. C'est un singe qui vit principalement à Madagascar, si mes souvenirs sont bons. Il a la particularité d'être extrêmement moche.
C'est pour ça qu'il est camouflé.
Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on l'a caché par respect visuel des joueurs.
Sa laideur est quelque chose d'assez extraordinaire.
Ouais,
ceux qui voient un peu, ceux qui veulent, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Internet. AYAYE. C'est particulièrement hideux. D'où le fait d'ailleurs qu'on ait décidé d'en faire un ninja qui se cache derrière ses cagoules.
D'accord. Exactement. Parce que moi, en fait, ça me faisait penser surtout à Slay Raccoon, c'est pour ça le personnage.
Ah oui, bah oui, effectivement.
C'est vrai.
Slay Cooper, pardon. Slay Raccoon. Ouais. C'était un peu le voleur aussi.
Oui, c'est vrai qu'il lui ressemble.
Alors, oui, il y avait une question de Keronron apparemment dans le chat qui disait c'est quoi la formation de l'équipe ?
Alors. Oui. Non, en gros, donc dans le ce qu'on appelle l'équipe de dev principale, donc les cinq du centre, on a donc un directeur artistique qui est actuellement à droite, donc c'est Gwen. Donc moi, je suis chef de projet et programmeur, comme j'ai dit.
La formation scolaire aussi.
Pardon, la formation. Oui, bonne question.
Oui, c'est plutôt ça. Ouais,
merde.
En formation.
Sinon, on est en formation tortue la plupart du temps.
Je me suis complètement viandé sur la question. Pas de problème. On va reprendre. Alors moi personnellement, je suis principalement autodidacte. Alors j'ai fait quelques années de fac d'informatique, mais c'est pas trop ça qui m'a formé. C'est plutôt mes expériences avant et après. Voilà, j'ai aussi une petite expérience pro, mais j'ai pas trop fait d'études dans le domaine. Et en tant que chef de projet, avant en fait, j'étais responsable d'une asso de cinéma et je réalisais des courts métrages dans le cinéma. J'ai réalisé plein de films. Et en fait, c'est pas très très différent de diriger une équipe de jeux vidéo. Donc ça m'a bien appris là-dessus. De se présenter avant de parler des autres.
Moi j'étais. Je vais pas réussir à me présenter en même temps que je joue. S'il y a moyen de faire quelque chose de très bien ici, là, avec lui, là, tu peux faire un truc qui fait mal. Je me suis pris à la partie, désolé. Non, je disais, moi j'ai fait une formation, comme je disais, pas du tout dans le milieu du jeu vidéo, je suis vraiment illustrateur de formation. J'allais en Belgique, j'ai eu une licence d'illustration à l'Institut Saint-Luc. Voilà, c'est moi à la base, je dessine surtout. J'ai fait un petit peu de BD, je fais des expositions de toiles artistiques et donc c'est pas dans le jeu vidéo. J'ai pas mal fréquenté, notamment dans mon école, il y a Black Frog, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le concept artiste qui a participé à pas mal de choses, notamment dans le milieu du cinéma hollywoodien, mais qui traîne avec les concept artistes. Assassin's Creed, etc. Donc tout cet univers-là m'a pas mal imprégné quand même, parce que c'est des gens qui sont passés nous voir pour nous parler de leur métier. Voilà, c'est aussi, j'étais pas totalement étranger à ça. Anthony, alors, en plus il nous écoute, donc ça va être difficile de faire...
Ouais, si, moi je sais. Bah, Anthony, il a fait l'Engmin, en fait, surtout. Avant, il a fait une licence dans le design.
Un BTS. Mais,
un BTS, puis une licence, Dieu. Etc. Enfin, des toutes sortes de machins. mais il a fait l'Engmin, qui est l'école publique de jeux vidéo, la seule à Angoulême, en master game et level design. Et en fait, dans le reste de l'équipe, les gens sont pas mal formés à leur propre domaine, mais pas spécialement
dans le jeu vidéo.
Voilà, exactement. Nos graphistes ont souvent fait des formations de graphisme, crois, très flosson, a fait un master de musicaux. Voilà, chacun, que ce soit le son, l'image, la communication, le juridique aussi, hein, par exemple, on a un responsable juridique qui parle un langage que personne ne comprend, ouais, et ça c'est très classe, et qui, bah, bêtement, a fait des études de droit. Voilà, chacun est un peu formé dans son domaine, mais effectivement, pas forcément par rapport aux jeux vidéo.
Apporter en fait tout simplement ses connaissances dans le milieu dans le développement du jeu, et pour bien que justement ça regroupe plusieurs types de métiers, mais pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'être à fond spécialisé que pour le jeu vidéo pour s'appliquer à ça.
Ouais, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est notre théorie. Après, c'est bien, c'est clair que qu'Anthony, par exemple, grâce à sa formation spéciale jeux vidéo, de temps en temps a des infos et des choses qui nous permettent de nous structurer plus facilement.
Il nous a évité bien les écueils aussi, parce qu'il avait justement ce savoir-faire bien précis, et nous, on arrive avec nos gros sabots des autres disciplines, et le fait que lui ait justement ce savoir-faire, ça nous a permis de pas exploiter notre savoir-faire comme des bourrins, en disant de toute façon c'est la même chose, c'est le même travail, et adapter un peu, parce que de toute façon il y a des petites nuances. Par exemple, notamment un exemple assez fort pour moi qui suis dessinateur, j'ai été à la fois, quand j'ai dessiné des décors pour les unités, on se retrouve face à des contraintes, on peut parler d'affordance par exemple, des contraintes de lisibilité du jeu et d'efficacité, etc., et qui sont complètement à l'opposé de moi, mes objectifs d'esthétique, de rendu. Et donc moi, je vais vouloir faire un dessin le plus joli possible, le plus proche de ce que j'ai envie de faire. Et à la fois, du côté de la programmation, il va y avoir des contraintes de poids, mais surtout du côté du game design, des contraintes d'ergonomie, de lisibilité. Et ça, c'est des choses, c'est pour le coup, c'est le bagage d'Anthony qui nous a permis de nous reconditionner un petit peu pour être plus approprié à la tâche qu'on avait.
Oui. Et justement, ce qu'est en train de dire aussi Anthony dans le chat, c'est que lui, vu qu'il il avait cette licence de jeux vidéo que vous n'aviez pas, ça lui a permis aussi d'avoir d'autres ouvertures d'esprit, puisque vous ne veniez pas justement de ce milieu-là. Puisque comme tout le monde sait, hein, quand on est dans une école, il y a quand même une certaine formation qui nous, entre guillemets, bride. Non, c'est peut-être pas le bon terme, bridé, mais qui nous formate, voilà, ouais, merci, qui nous formate à une certaine vision du milieu, alors que justement quand d'autres personnes ne viennent pas de ce milieu-là, il y a d'autres points de vue qui peuvent arriver, qui peut être intéressant de comparer et de mélanger pour créer un truc qui rend bien, quoi.
Tout à fait.
Différence d'opinion.
En tout cas, on espère que ça rend bien après.
Oui, c'est sûr que c'est là où c'est à la fois une force et une faiblesse, c'est que on est plus riche, mais aussi moins expérimenté. Mais le bagage d'Anthony est là pour compenser cette faiblesse. Comme ça, on n'a que des forces, ouais. Voilà.
On élimine toutes les faiblesses, il ne reste plus que la force.
Exactement.
Ah, depuis tout à l'heure, en fait, c'est à nous de jouer, là, non?
Oui,
ah merde.
Moi j'attendais, moi.
Ah merde, en fait, on a juste pas passé notre tour, quoi.
Surtout qu'on pouvait attendre longtemps, vu que le tour est limité.
Ouais, pardon, mea culpa, je me fouetterai à la fin de cette interview.
il se passait plus grand chose. D'ailleurs, ton Abdel, pour avoir info, est un gros cuirassé, qui va tout doucement et qui n'a pas une si grosse attaque que ça. Il est très pratique, notamment pour tout simplement cacher les archers derrière, parce que comme il a 20 d'armure et que c'est la plus grosse armure du jeu, beaucoup d'unités dans le jeu lui font tout simplement 0 dégâts.
Ah ouais, carrément, ouais. C'est vraiment un gros blindage sur pattes, quoi.
Il y a peu de vie, mais si tu fais attaquer que par des petites unités, notamment parce qu'on a vu passer certaines stratégies dans le jeu où des gens, parce que c'est moins cher, se font des armées remplies de petites unités faibles et submergent l'ennemi sous une pluie de petits coups qui font pas très mal. Et ben dans ces cas-là, cette unité-là est tout simplement invincible. Mais bon, là du coup, on va miser sur le fait qu'on peut quand même te faire mal.
Ah non, c'est vrai, Mario peut t'attaquer deux fois.
Oui,
ouais.
Mario a la double attaque.
C'est une raison pour t'acharner sur notre pauvre mandal postal.
T'appelles Vlad Puma d'ailleurs, je sais pas pourquoi.
Oui, parce qu'en fait, les unités ont des noms fixes, mais après, il y a des noms aléatoires qui se posent juste en dessous.
Voilà, c'est ça.
Ouais, exactement. Chaque unité a un nom de classe et un prénom. Et le prénom est effectivement aléatoire. Et pour l'anecdote, quand on pourra créer ses propres presets d'armée, donc des armées préenregistrées, on pourra choisir les prénoms qu'on donne à ces unités.
Ah, un peu comme les Worms au final.
Oui, ça va, complètement. Ou les cochons de guerre d'ailleurs, qui étaient en fait quand même beaucoup pompés sur les Worms.
Alors si on s'est encore en train de discuter sur les formations dans le chat. On est d'accord avec ce qu'on disait. Oui, et désolé pour le mot assez bridé, je sais que ça va paraître peut-être un peu trop fort.
Non, mais c'est drôle parce que c'est de façon toujours quelque chose qui est sujet à débat, notamment voilà, moi qui suis très autodidacte, j'ai facilement effectivement un discours anti-formation qui des fois est tout à fait gratuit hein, et injustifié, je suis le premier à le reconnaître, mais c'est vrai qu'il y a qui...
D'accord, et j'ai pas eu, mais Anne Mérémy s'appelle Legolas.
Oui, parce que c'est plus ou moins un archer. C'est le genre de rapprochement douteux. On ne sait pas si ce nom a été implémenté par le programmeur à 5h du matin.
Non, mais il faut savoir qu'il y a 36 unités en tout et que toutes les unités ont au moins 10 prénoms. Donc ça fait 360 prénoms. Des fois, il y en a nettement plus. Donc très vite, on part un peu en couille, forcément.
S'il y a des plantes, on avancera que c'est modifiable par le... on n'a pas pensé notre tour non plus. Vu que c'était moi qui jouais, bah, moi je suis le lâche, donc je me suis caché. Bon, en fait, on est un joueur à deux têtes. C'est le bon flic et le méchant flic, mais là, c'est le lâche et le téméraire.
Alors, c'était la technique de Rémi. Effectivement, ouais. Ah oui, non, je vais dire, j'ai traversé la nuit, mais non, c'est vrai, c'est sa compétence de Link.
Ouais.
Tenter l'approche furtive avec le Mario, quoi. Tout va bien.
Oui, il peut faire.
Mario qui s'appelle Luigi, ouais.
ça crée vite des dialogues un peu absurdes. Ouais. Mon Mario s'appelle Luigi, ouais, c'est tout.
Pas de problème.
Tout va bien. Voilà, par contre, moi, je suis tellement dans le caca là.
Mais non, mais... Tu nous attaques un peu de part en part, on sait plus trop quoi faire. Là.
Ouais.
Et bah, en même temps, avec un niveau comme ça, il faut forcément attaquer des deux côtés, quoi. C'est.
Mais du coup, vu que les robots ont un avantage en résistance avec leur cuirasse et leur point de vie élevé, c'est vrai que ils peuvent aussi parfois se permettre de brûler.
C'est ça. Généralement, tu prends un peu cher quand t'es à distance comme là, mais quand tu vas arriver au contact, notamment avec tes Mario qui font très mal, théoriquement, on devrait le sentir passer. Mm. Mais on se laissera pas fait.
Faut qu'ils arrivent, ils aient le temps d'arriver, quoi. Avant que le dépaysagiste éclate tout. Et une Rélie Dinosaur me dit effectivement utilise tes boosts de ressources. J'essaie d'économiser mes ressources justement, c'est pour ça que j'ai évité de donner des power-up à Mario plutôt que. Qu'est-ce qu'il fait avec les drapeaux là?
Justement, lui il est en train de se booster.
Ah oui, d'ailleurs, Gabriel m'a fait remarquer que j'avais oublié que quand on augmente l'attaque d'une unité qui a un dégât de zone.
Comme le
dépaysagiste, ça coûte 3 fois plus cher. Et du coup, on s'est ruiné.
Ah oui, effectivement.
Ah là, on s'est bien bien ruiné.
Tenter un truc après, on va voir ce que ça donne. Bon, je pense pas qu'on aura le temps de la finir, la partie, vu qu'il est bientôt la demi.
Il y a des gens, des questions qui n'hésitent pas.
Hein. Oui, on
est frais et dispo pour répondre à tout.
Ça picote un peu quand même.
Non, mais là, Gwen il sait pas laisser sa chance aux jeunes joueurs.
Ah, moi, j'ai les dents longues, là, je suis désolé.
Il a retourné le jeu depuis...
il veut gagner, là, ça se sent.
Il a la niaque.
Non, mais en même temps, il faut pouvoir... J'avais très envie que nos auditeurs puissent voir l'animation de mort de la machine à laver aussi, c'est pour ça.
Ah, le prétexte, quoi.
Besancenot demande un Laposte Human War. D'accord, dystopiste.
Bah, on a déjà une unité qui s'appelle Mandal Postal et qui est habillée en jaune parce que c'est un singe qui court très vite. Donc dans nos scénarios, on s'était dit que c'était tout simplement un facteur.
Alors oui, il y a Linidor qui pose une question. Est-ce qu'on peut y jouer parce que il a entendu que l'alpha était terminé?
Alors non, en fait oui, on peut y jouer. Là où on dit que l'alpha est terminé, c'est juste que actuellement on est, nous, en phase de développement intensif, et donc on n'est pas constamment en train d'animer la communauté, de relancer de la communication, etc., pour que les gens soient là. Donc en gros, nous, on n'est pas actifs de notre côté, mais par contre, sur l'adresse qui doit être quelque part, il y a un lien vers l'alpha, et les gens peuvent s'inscrire, faire le tuto, et ensuite jouer s'ils trouvent des adversaires. Voilà, comme je l'ai dit un peu au début, c'est la seule contrainte, c'est actuellement, il y a certaines heures où vous trouvez des adversaires, et d'autres, non. Et ben, faut juste être patient et nous excuser, et on vous préviendra quand il y aura à nouveau plein d'adversaires.
Voilà, c'est histoire d'avoir le compte. Effectivement, Anthony répond aussi dans le chat, c'est beau.
En fait, il nous grille partout, lui.
Monsieur. Il semble avoir un métier, mais en fait.
Ouais, c'est ça.
Je travaille, mais pas trop.
Exactement.
On attend de nous faire encercler, mais bon.
Non, mais en plus, je sais pas comment il chatte. Alors, parce que, quand même, pour anecdote, je pense que c'est pas secret, vu qu'il le dit aux autres. Et normalement, il travaille actuellement chez Ubisoft. Et donc, actuellement, il doit être en train de se cacher au fond de son bureau. pour être ici.
Ouais, on s'est bien encerclé, effectivement, je l'avais pas.
Beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui font du jeu indé, on se passe par la case Ubisoft.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Bah, en gros, de toute façon, c'est le plus gros employeur dans le domaine du jeu vidéo en France, donc c'est clair que c'est une bonne occasion d'avoir une expérience pro, de gagner des sous, etc. Donc je pense que ça a beaucoup d'avantages.
Il dit qu'il ne se cache pas, apparemment.
Donc... Peut-être que tout Ubisoft derrière lui est en train de regarder. Mais...
Bah justement, il dit qu'il y en a d'autres qui regardent le Twitch à Ubisoft.
Ah bah super. Ah bah les mecs,
on est en train de nécroser Ubisoft de l'intérieur.
Ah bah, ils peuvent l'attendre la mise à jour de Black Flag maintenant que...
Non, on en a à Unity maintenant, c'est déjà l'épisode suivant, voyons. Assassin's Creed. Ah. Ça va vite à Ubisoft.
Ouais, parce qu'en fait, le prochain est en développement, il va s'appeler Unity Black Flag.
Mais non, il est déjà annoncé, c'est à Londres en plus déjà. Putain, ah, vachement vite, oui. Ah, Unity est déjà à peine sorti qu'ils annoncent que le prochain se passera à Londres, ils ont déjà des images et tout.
Ah, c'est vrai. Non, mais nous aussi on va faire ça pour Past Human War 4, qui sortira bien avant le 2 et le 3, parce qu'on est hyper organisé.
Et il va se passer à Londres aussi, mais.
C'est ça, dans Néo-Londres.
Avec la quatrième faction qui sera. On a déjà des propositions pour la quatrième faction de la part des joueurs, plus ou moins absurde. Aïe aïe aïe, t'as gardé tes ressources et du coup là tu te.
Là, ouais, le fakir il a pris cher là.
Et il aime bien ça, je crois.
Ouais. D'ailleurs, sa mort voilà. On voit qu'il est plutôt satisfait. Je sais pas si t'as zoomé pour la.
On a vu son âme partir avant qu'il tente. Ah oui, là il est vraiment en train de sourire quoi.
Ouais, il a un petit.
Ah, je suis mort, ça y est, ouais.
Et en plus, tu prends soin à chaque fois d'espacer tes unités de 2.
Bon, allez, je vais recommencer à jouer. La Gwen, il nous a mené au désastre. C'est n'importe quoi.
Je dis, c'est bon flic, méchant flic. Moi, je fais semblant de jouer mal, justement, pour
mettre en valeur,
en valeur la stratégie.
Ouch, ça picouille. En pleine concentration maintenant. Ah, ok, mais essayer de finir au moins. Si je sens que c'est moi qui ai perdu mes unités.
Bah, en fait, là, les unités qui traînent sont les plus balèzes.
Ouais, ils font très très mal surtout.
Donc je sais pas.
Bah, vous avez voilà. Le AI qui risque d'aller partir un peu dans tous les sens.
C'est vrai que si on laisse Gwen se cacher comme un gros lâche.
Ça risque de durer un peu plus longtemps, mais ça risque de faire mal.
Non, les deux cuisiniers, ça fait quand même très très mal. Hein. Ouais. 50 dégâts par tour et par cuisinier.
Ah, je vois une question.
Il y a un système de ranked ou un futur de prévu.
Eh ben, en gros, il y en a plusieurs. Non, c'est le bazar. En fait, donc actuellement, le classement est très sommaire, mais en fait, dans le futur, il y aura à la fois, il y a plusieurs types de classements. Le principal, ouais, je vais quand même faire un peu plus exhaustif. En gros, les joueurs se battent pour des territoires. Le but, c'est de choper un maximum de territoire, d'agrandir son terrain, de prendre des villes humaines, que ça soit pour les réhabiliter, pour les réinvestir ou pour les détruire, suivant la faction qu'on joue. Et donc les joueurs sont classés par rapport au nombre de territoires qu'ils possèdent, sachant qu'à chaque fois qu'on combat quelqu'un en mode conquête, on récupère des territoires à lui, plus des nouveaux. Donc voilà, en gros, on peut en perdre et en gagner, même si généralement on en gagne plus qu'on perd. Et donc il y a un système de classement adapté sur les territoires. Et ensuite, les joueurs sont séparés effectivement en différents paliers qui sont plus ou moins transparents. Actuellement, ils sont quasiment invisibles. Mais il y aura effectivement, par palier de territoire, différents niveaux de joueurs, entre guillemets, qui permettront de les différencier. Sachant qu'après, il y a aussi des classements secondaires basés sur l'expérience, sur ceci, c'est sur tout un tas de facteurs à la con. Mais les territoires restent le premier. Je ne sais pas si j'ai précisément répondu à cette question.
Je pense qu'il aura sa réponse qui lui conviendra. Alors, j'ai l'impression que là, le démissionnaire et le sagittaire, elles sont en train de regarder le Mario approcher en mode flippette.
Voilà.
En train de se
c'est là,
cacher.
Du coup, j'ai pu profiter
J'ai plus de... Ah putain, j'aurais dit en son, j'aurais pu éclater les deux en un seul. Bon, bah va falloir choisir qui c'est qui va mourir. Allez.
Bien, t'as tapé le plus dangereux, je pense.
Ouais.
On va voir ce que ça donne, hein. C'est vrai que j'ai pas encore tué votre champion, au final.
Non.
Et nous non plus.
Ça va être ton deuxième cuistot, à tous les... moins que ce soit...
On va peut-être...
En fait, on s'est pas tué nos champions, tout simplement.
Non, mais après, dans les joueurs à haut niveau, c'est assez rare de tuer le champion de l'autre dès le début, parce que l'autre, généralement, arrive à le planquer de manière subtile pour pas trop éveiller les soupçons. Mais des fois, ça tombe un peu vers la fin de la bataille, mais de manière quand même plus précipitée chez l'un que chez l'autre, et ça fait la différence, quoi.
Alors Linidar pose une autre question. Si une faction détruit une ancienne ville humaine, donc a conquis le territoire, et qu'une autre faction reprend le territoire, la ville est-elle reconstruite ?
Tout à fait. Alors tout ça en vérité est invisible, hein. C'est-à-dire que nous c'est dans le background, c'est comme ça que ça marche, mais on voit pas ni la destruction ni la reconstruction. Mais l'idée c'est que effectivement quand les robots reprennent un territoire, s'il y a déjà une ville, ils la nettoient, ils la réaménagent, et s'il y en a pas, carrément ils la reconstruisent. D'où la présence d'engins de chantier, par exemple le gros jaune qu'on peut voir là, parmi les armées Airpatch. Voilà, les vracs, eux, ils rasent tout. Et les anthropistes, si c'est une ville déjà existante, ils la réaménagent, ils font des ponts de lianes, ils mettent des pots de bananes partout, enfin, ils se sentent chez eux, quoi. Si c'est un terrain vrac, là, ils essayent de construire une ville en imitant plus ou moins les humains. Mais encore une fois, tout ça est invisible, ce qui ne nous empêche pas d'imaginer dans le futur, peut-être, un moyen de représenter tout ça de manière un peu plus efficace pour que les joueurs se sentent plus investis, on va dire, en quête de la post-humanité.
Ouais, là, du coup, nous, on a perdu un peu notre gros machin.
Moi, j'ai un cuistot qui se cache derrière un totem, c'est pas mieux. Allez, on arrive à la fin, là, on y est presque.
Ouais, là, c'est serré, ça va dépendre de comment on se débrouille.
On la prend cher, par contre. Concentration.
Hop, les fins de partie. Ouais. De temps en temps, il y a des retournements un peu spectaculaires à la fin.
Je pense que mon odd là va. Enfin, ma odd va plutôt crever dans pas longtemps parce que là, tu te fais encercler.
Ouais. Bah, tu réussis à détruire notre totem.
Il me faut quoi encore ? Il me faut 3 tours.
Ouais.
C'est le problème, c'est que le AI il a encore toute sa vie.
C'est vrai.
Toi, tu sais qui est ton champion ? Je ne sais pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est.
Alors ouais, qui ce plus. Sera le Mephisto ou Odd ?
On a bien joué le jeu, on n'a pas trop regardé ton écran.
J'ai un peu regardé, mais c'est pour ça que c'est Gwen qui joue.
Alors Kara, oui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Oui, l'ours bipolaire est inspiré de Yeti Sport.
Ouais,
complètement. Mais
c'est une affaire assumée. D'ailleurs, si on clique plein de fois dessus, il commence à faire des blagues là-dessus, en disant qu'il joue aussi aux fléchettes, au surf et à tous les autres dérivés de Yeti Sport.
Hop là !
Dommage, parce que sans ça, peut-être que...
Bah du coup, ouais, là, il y a peu de chance quand même que t'arrives à t'en sortir.
Ouais, ça détruit les totems et les ennemis.
Et Gwen, il est obligé à être gentil et à mal jouer, mais comme il joue mal d'habitude, il a...
Du coup, ça a fait un moins fois moins.
Exactement.
Du coup, je me suis retrouvé à savoir jouer. C'est assez étonnant, d'ailleurs.
Parce que là, le démissionnaire, il est trop lent pour que je puisse l'attaquer. Il aura le temps de partir avant que je l'attaque, le prochain tour...
Ah, si j'étais toi, je continuerais à acheter le...
C'est ce que je vais faire. Le désespoir. Il restait planqué derrière. Cette statue qu'il y a là. Graf von Strudel, inventeur à l'affordance artificielle de 1736.
Ok. Oui. Alors, si on explique.
Oui, bah, tu peux expliquer.
Oui. Alors, oui, parce que donc pour tous les décors, évidemment, il y a des tas de private jokes et de références plus ou moins cachées un peu partout dans les différents amis de décors. Donc là, c'est la statue d'un inventeur artificiel qui est donc pour la blague, donc l'affordance artificielle, c'est quelque chose de propre à l'univers de Pastuba Noir dont nous n'avons pas parlé, car peut-être qu'un jour ça servira à quelque chose. Mais pour l'instant, c'est juste une bonne blague entre nous. Et le visage de cet inventeur a été copié sur un mec qui est dans la pièce à côté de nous actuellement et qui est la mascotte du jeu qui nous a régulièrement soutenus et qui a enregistré des voix sur le jeu.
C'est juste une personne qui nous a gratifié de sa présence pendant les longues heures de création du jeu.
Voilà.
Et donc c'est plus ou moins une mascotte. On en a plusieurs des mascottes comme ça, des gens qui n'ont pas travaillé sur le jeu mais qui n'ont fait que errer dans la colocation ou dans les studios. ou faire des pâtes ou des trucs comme ça. Et du coup, on les a remerciés. En tout cas, cette première mascotte a été remerciée par eux. Oui, dans le décor, il y a pas mal de
petits Easter eggs. Private joke.
Notamment, alors sur la ville, comme les villes étaient plus ou moins des arches de Noé des derniers jours de l'humanité, on s'est dit que c'était des villes polyglottes. Mm-hmm. Et donc notamment dans les différents panneaux d'indicatifs, etc., il y a plein de mots que nous avons cachés dans des langues complètement diverses et variées. Chaque fois, ça veut dire quelque chose. Hein.
J'ai un panneau qui indique des directions du côté de ma base.
Ouais.
On voit marqué dortoir, toilettes. C'est quoi le. Kelimu et Neo. Et quelque chose écrit en arabe, apparemment.
Ouais, c'est aussi pareil sur les terrains ralentisseurs, là, le petit terrain rayé jaune. Il y a écrit ralentir dans une petite dizaine de langues. Et notamment en swahili, ça se dit pol-pol. Je trouvais ça assez marrant. Du coup, on l'a dit dans le jeu.
Pol-pol, effectivement.
Utile de dire qu'on a beaucoup fait chauffer Google Traduction lors de la création du jeu. Mais aussi, ouais, pour des fois, pour des noms, certains noms sont inspirés de langues étrangères, etc. On s'est amusé.
Notamment le hollandais a sa belle part dans le relation, notamment parce que les stront veut dire excrément en hollandais et vrak veut dire vengeance en hollandais. Donc encore une fois, Google Trad
a chauffé.
Le hollandais est une langue suffisamment drôle pour que on n'ait même pas eu à réfléchir à qu'est-ce qu'on mettait très précisément. Des fois, juste on tapait des mots qui avaient du style vocalement et on voyait ce que ça voulait dire en hollandais. Et souvent, ça voulait dire un truc.
Ça qui est génial avec le hollandais.
Et donc là, je vais cliquer sur le sablier qui va
mettre fin.
Votre fin à vous, robot. Je profite pour vous envoyer des petites récompenses vocales.
Ah oui, et visuelles, vas-y, envoie des trucs.
Et visuelles, allez, on envoie des trucs. On est content.
Effectivement, il y a des petits choix. Ah tiens, moi je suis là.
Et c'est là-dedans donc que le joueur pourra en acheter d'autres. Pour faire sa collection de machins à envoyer.
Allez hop, on arrête de spammer.
C'est la fin.
C'est la
le
fin.
Suicide. Le suicide de l'italien. Et voilà.
Et donc le petit mot pour la fin que nous apprêtons.
Qu'est-ce qu'on va mettre?
Je te laisse faire.
Suspense.
L'instant professionnel qui ressort.
Attention. Voilà. Je pense que c'est un beau mot pour la fin.
Oui.
Donc du coup, merci quand même d'avoir accepté l'invitation. Hein.
Mais
pour présenter Passion Manoir.
Merci à vous.
Merci à vous. C'était bien cool de parler, d'échanger là-dessus et de présenter un peu notre taf.
Merci au JDG et tout ça.
Oui.
De rien. Je pense pas qu'il a réellement appris l'existence du jeu, mais je ferai tout pour.
Parfait. Travaillons-le.
Oui. Ouais, de toute façon, je pense qu'on en avait parlé en privé, mais on devait faire une news sur le CJDG pour en parler. Donc on le poussera, il en parlera, il fera une news et il le testera.
Yes,
voilà, voilà.
On veut. De toute façon, c'est marrant parce qu'on a plusieurs personnes de Nesblog qui ont vu vent de près ou de loin. Mm-hmm. Et notamment, alors, on a Usul qui s'est inscrit lors de la première journée d'Alpha. Et alors pour la blague, lui ne sait probablement pas, mais nous on a ses stats et on sait qu'il a jamais passé le deuxième tutoriel.
Comment ça stole, Kia?
Voilà, c'était pour l'anecdote.
Très bien, très bien. Bon, en tout cas, merci pour le jeu, hein. Et les gens dans le chat, n'hésitez pas du coup à rejoindre le site. Hein. On rappelle que tout est gratuit.
Tout à fait.
Et qu'il n'y aura pas de pay to win, seulement de la monnaie pour le swag et le fun, on va dire.
si tous les auditeurs du Twitch se retrouvent, vous pourrez vous affronter une fois avoir passé les trois tutoriels. Là,
tout à fait.
C'est sûr d'avoir des gens en face de vous.
Nous, de toute façon, on va errer un peu aussi sur le serveur. On erre toujours, donc quand il y a des joueurs qui viennent, sans attendre, on les affronte. Et des fois, on est gentil et on fait semblant de perdre, ne vous inquiétez pas.
Là, ils n'ont pas fait exprès de perdre, donc je suis triste. Et on voit Jimad aussi qui dit qu'il écrira un petit message concernant le meltdown pour jouer au jeu.
Yes, et ben avec grand plaisir.
Voilà, voilà. Sur ce, tu avais peut-être quelque chose à dire, Gwenaël?
Merci, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir joué à le jeu.
Ah, de rien, hein. C'est, on va dire que c'est un peu la récompense d'avoir travaillé quand même sur le jeu comme il faut.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que bah, c'est, on l'a dit tout à l'heure, mais on le dira jamais assez. Pour nous, en fait, le plaisir ultime, c'est de voir qu'on s'est cassé le cul entre nous, mais que finalement d'autres gens apprécient. Et ça fait chaud au cœur.
C'est sûr, le petit cœur de développeur.
Exactement.
Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, nous, on va se quitter là. Vous retrouvez donc à 15h, donc d'ici un peu moins de 10 minutes, même un peu plus de 10 minutes, pardon, un speedrun de Pokémon Rouge, qui va durer avec un estimate de 2h30. Donc, il y a des grandes chances que ça finisse plus vite. Après, on se retrouvera à 18h pour A-Link vs The World Partie 2. On va enfin savoir de qui d'A-Link ou du reste du monde va gagner ce tournoi. À 20h, ben, on se retrouvera pour le bilan de l'event. Eh oui, c'est déjà quasiment la fin, hein. On approche à très grands pas. Et à 21h, vous retrouverez un petit live au Game Over de Nantes, qui est un bar axé jeux vidéo, tout simplement. Vous proposons quelques jeux en live. Et puis, bien entendu, pour la clôture de l'event, ce ne sera pas ce soir, mais demain, vers 14h, vous retrouverez Fred et Seb chez eux, hein, dans le premier décor JDG, ils vous feront un petit live de clôture. Donc voilà, on vous souhaite une bonne suite de la journée. Moi, je vous retrouve à 18h. Donc des bisous le chat, et à la prochaine. Ciao, ciao.
Au revoir à tous.
Salut.